Nous sommes dans une époque, et puis de toute façon, on a toujours, tout autant qu'il y a eu des hommes sur la Terre, entendu parler de guerre. Je veux pas vous parler de la guerre. Et pourtant, nos dirigeants passés et actuels parlent aussi de paix. Bon, les hommes, c'est vrai, veulent la paix. Ils veulent tous la paix. On a regardé quelque chose sur le porte-avions Charles de Gaulle, armé jusqu'aux dents, mais dessus, tous veulent la paix. Et pourtant, le Christ a dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Donc aujourd'hui, bien des gens trébuchent dans les ténèbres. On trébuche dans les ténèbres en cherchant la paix, parce qu'on ne connaît pas le chemin de la paix. Et pourtant, le message de Jésus était simple. Ce message était simple et pourtant il était puissant. Seulement, ce message, entre parenthèses, ne plaît pas à tout le monde. Je dirais que la première idée, disons, de ce message, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, pour les Juifs de l'époque, c'était en effet une nouvelle tout à fait surprenante. Certains, déjà, parmi eux, spéculaient sur le fait que peut-être cet homme était le Messie, un Messie qui était prophétisé et qui établirait le royaume de Dieu sur la terre, le royaume d'Israël sur la terre. Donc, il y avait des preuves. Jésus guérissait les malades, les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient, où que Jésus allait, les gens venaient. D'abord, quelques-uns, puis par centaines, tout simplement pour entendre son message, pour entendre le message du royaume de Dieu. Une grande foule se rassembla, et Jésus monte sur une petite colline, et c'est sur cette colline qu'il donna le fameux sermon sur la montagne. Les gens venaient pour entendre parler de cet accomplissement, entre parenthèses de l'accomplissement des promesses qui avaient été prophétisées et que Dieu avait faites à Israël. Ils entendaient donc parler du fait d'être bénis à cause des persécutions. Donc, ce n'était pas un langage tout à fait habituel. Ils entendaient parler des secrets du mariage, d'aimer leurs ennemis, du jeûne et des difficultés aussi pour suivre Dieu dans un monde plutôt méchant. Donc la mission qu'il donna à l'Église à ce moment-là est de prêcher l'Évangile, et cette mission bien sûr est toujours la même, de prêcher l'Évangile et de faire des disciples. Les disciples deviennent à ce moment-là des citoyens d'un royaume gouverné par Dieu. Un passage de cette affirmation que donne le Christ à ses disciples dans Matthieu 28 et au verset 16. Matthieu 28, verset 16 à 20, c'est la fin de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Je pense que chaque mot, chaque phrase est à analyser ici. Il y a toujours certains qui ont des doutes. Et à leur époque, à l'époque même du Christ, dans son présent, quelques-uns eurent des doutes. Jésus, au verset 18, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'était le message du Christ à ses disciples. Alors, je veux bien croire que ce sermon n'est certainement pas organisé comme le ferait avec des moyens professionnels, quelqu'un de plus moderne, c'est bien possible, avec toutes sortes de moyens qui ne sont pas à ma disposition. Mais je suis sûr qu'il est quand même instructif, parce qu'il contient des histoires, Il contient des proverbes, des commentaires, enfin quelque chose qui est en mesure de nous intéresser. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5 et nous allons étudier la première partie du sermon sur la montagne, généralement appelée, vous savez, les béatitudes. Alors, béatitude signifie, béatitude, c'est un bonheur parfait, c'est un bonheur, un bien-être, tout à fait une grande satisfaction. Donc, cela signifie aussi ce bonheur que les hommes recherchent. Un psychologue célèbre a dit, la plus grande découverte de ma génération, je lis, est qu'un être humain peut corrompre sa vie en altérant son attitude. Et c'est bien vrai. On peut corrompre notre vie lorsqu'on a une mauvaise attitude. Lorsqu'on corrompt notre vie, on altère notre attitude. Et si plusieurs philosophes étudiaient les enseignements de Jésus, ils découvriraient justement que changer de vie en changeant son attitude n'est pas un nouveau concept. Ce concept fut enseigné par Jésus il y a près de 2000 ans. Jésus commence cette discussion sur le thème central de son message en expliquant les attitudes que Dieu définit comme tout à fait essentielles pour vivre dans son royaume. Donc, nous allons voir ces attitudes, je sais que nous les connaissons tous, on peut les revoir, on peut en reparler de nouveau. Nous en avons besoin parce que nous devons vivre de ces attitudes, aussi bien vous que moi, que tout chaque membre de l'Église doit vivre de ces attitudes. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il nous est bon de revenir souvent sur ces attitudes, de nous les rappeler. Et la Bible, la parole de Dieu, est un éternel recommencement. C'est toujours le même enseignement qu'il nous faut souvent revoir. Donc, il nous faut vraiment changer notre vie si nous voulons vraiment trouver un bonheur parfait et, bien sûr, un bonheur ayant un sens parfait. Alors, nous devons commencer donc par ce serment sur la montagne, par les enseignements qui, à l'intérieur, nous sont donnés. Ces attitudes, ces approches de la vie ne peuvent pas être atteintes que par notre propre volonté. Il faut accepter déjà la grâce de Dieu et bien sûr, acceptant la grâce de Dieu, nous soumettre aux enseignements du Christ, nous soumettre à sa volonté. Nous savons tous que Dieu ne force personne. Il nous donne la possibilité de comprendre ses enseignements. Et lorsqu'il donnait ses enseignements sur le serment sur la montagne, beaucoup ne comprenaient pas ce qu'il y avait, mais beaucoup d'autres ont compris. Donc, c'est tout à fait autre chose donc, que de se soumettre à sa volonté. Ce serment, Dieu nous communique simplement, je dirais moi, ce code de bonne conduite. Alors, non seulement ce serment nous montre comment approcher, comment aborder la vie, mais il montre aussi le contraste entre deux valeurs, mais entre les valeurs éternelles, les valeurs du royaume, c'est-à-dire celles de Dieu, et les valeurs plutôt temporaires de la nature humaine, de la nature charnelle. Alors commençons par Matthieu, chapitre 5, et le verset 1. Nous allons faire quelques détails en essayant de comprendre vraiment ce que le Christ entendait dans ses, par exemple, ici au verset 1, « Heureux les pauvres en esprit ». Donc, c'est pour ça que le Christ commence au verset 1 en disant « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne » au verset 1 de Matthieu 5 « et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ouvrant la bouche » est une façon de parler, il les enseigna. Et son enseignement commence par ce premier point. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, heureux les pauvres en esprit, l'approche la plus commune et la plus opposée de la vie, Eh bien, c'est l'orgueil, c'est l'autodétermination. Et le roi David comprenait cette attitude. Il a écrit des psaumes, je vais en prendre un, le psaume 51, verset 19. En lisant ce psaume, on s'aperçoit vraiment que David avait compris ce premier enseignement. Psaume 51, verset 19, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un cœur contrit. » Autrement dit, là, il y a le repentir et le désir, bien sûr, d'observer les lois de Dieu. Que veut dire Jésus quand il nous dit que nous devons être pauvres en esprit? Être pauvre en esprit, c'est comprendre que nous ne sommes rien devant Dieu. Nous sommes de la poussière, certes, mais cette poussière a quand même été créée à l'image de Dieu. Alors, c'est une poussière quand même qui a devant Dieu une certaine valeur, puisqu'il veut que nous devenions ses fils, il nous veut dans son royaume. Alors, nous sommes quand même de la poussière à ses yeux. Donc, être pauvre en esprit, c'est comprendre cela, que nous sommes rien devant Dieu. C'est lui, c'est Dieu qui donne la vie, et il est le seul à pouvoir résoudre les problèmes que ce monde aujourd'hui rencontre. Autrement dit, tous les problèmes de la vie. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre pauvreté émotionnelle et spirituelle. Quand nous sommes pauvres en esprit, il est beaucoup plus facile d'admettre que nous avons tort parfois. Il est plus facile de dire, eh bien, pardonne-moi, c'est vrai, j'ai tort, je suis désolé. C'est beaucoup plus facile de dire cela. Quand nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, faire face aux conséquences, ou quand nous nous trouvons parfois en conflit, plus souvent que peu souvent, cherchant parfois à forcer notre volonté devant les autres, à ce moment-là, nous ne reconnaissons pas notre faiblesse devant Dieu, nous ne reconnaissons pas notre petitesse, et à ce moment-là, le bonheur tant attendu de chacun d'entre nous fuira toujours un peu plus loin. Le trouble et le stress causés par notre fierté, parfois, nous empêchent de répondre à l'aide de Dieu, nous empêchent, je dirais, de répondre à Dieu, nous empêchent de prendre sa main, pour ainsi dire. Donc, ce dont parle Jésus dans une parabole, dans Luc chapitre 18, je vais m'y référer, Luc, le chapitre 18, verset 9. Luc chapitre 18. Et le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certains hommes, de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Nous connaissons très bien cette parabole. Ce qu'il faut surtout retenir dans chacune des paraboles du Christ, c'est l'enseignement spirituel de la parabole. Et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, moi, dit-il. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, là, la leçon à apprendre est tout à fait claire dans ce passage aussi. Le pharisien ne mentait certainement pas quand il disait qu'il donnait la dîme, et il ne mentait certainement pas non plus quand il disait qu'il jeûnait. Il n'était certainement pas un ravisseur ou même un adultère. et ils se prosternaient pas, ne se prosternaient pas certainement devant des idoles non plus. Alors, que se passe-t-il ici? D'un autre côté, le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts en anglais, était méprisé par le peuple juif, parce que automatiquement, vu son travail, vu son métier, il collaborait avec le gouvernement romain. Mais le collecteur d'impôts en question comprenait sa pauvre attitude, comprenait sa pauvreté spirituelle plutôt, parce que son attitude était plutôt riche plutôt. Quand il venait devant Dieu, devant le souverain de l'humanité, et c'est ce qui est acceptable justement pour Dieu, reconnaître que ce que nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi en priant souvent, nous pouvons dire, Dieu, montre-moi et aide-moi à me voir tel que tu me vois. Juste quelques lignes là, que je voudrais lire, c'est un commentaire, l'extrait d'un commentaire du président Roosevelt. Theodore Roosevelt, après avoir passé une soirée à parler politique avec ses amis et parler d'affaires humaines, sortait souvent la nuit et marchait, admirant la majesté et la grandeur des étoiles. Il scrutait donc la voûte étoilée. Son ami William passait avec lui. Après un moment, Roosevelt disait, après avoir vu les étoiles, et réfléchir souvent certainement à l'état humain, il disait « Maintenant, je pense que nous sommes suffisamment petits. » Donc être pauvre en esprit, c'est comprendre notre petitesse devant Dieu. Donc ça, c'était le premier point de l'enseignement du Christ, « Heureux les pauvres en esprit ». Le deuxième point, c'est le verset 4 de Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, verset 4, quand Jésus dit « Heureux sont les affligés. » Heureux sont les affligés. Combien de chrétiens continuent à chercher des réponses dans les livres de psychologie alors que Dieu dit que Christ fut envoyé pour donner des réponses à ceux qui souffrent, pour donner des réponses à ceux qui sont malades, donner des réponses à ceux qui sont affligés, à ceux qui vers lui tendent leurs mains. C'est pour ça que Christ a été envoyé. Donc, les êtres humains que nous sommes tous peuvent essayer évidemment de découvrir les clés du bonheur, les clés de l'accomplissement, mais le bonheur est impossible sans une attitude comparable à celle de Christ. C'est pourquoi que ce serment sur la montagne égrène, pour ainsi dire, mentionne tous toutes les attitudes nécessaires d'un chrétien pour entrer dans le royaume de Dieu. Remarquons ce que le Christ dit dans Luc chapitre 4 et le verset 20. Chapitre 4, commençons au verset 16. Luc le chapitre 4. Voilà. Luc chapitre 4, verset 16 à 20. Il, le Christ, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvera l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour quoi faire ? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, autrement dit aux humbles, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ce n'était pas une lecture que les gens avaient l'habitude d'entendre. Donc Jésus est venu, comme on le voit dans ce contexte, apporter la bonne nouvelle pour guérir les cœurs brisés et libérer ceux qui sont oppressés. Il est venu aussi, évidemment, mourir à notre place parce que nous sommes pécheurs. Et comme on l'a dit souvent, par sa crucifixion, par son sacrifice, nous sommes réconciliés avec Dieu et par sa résurrection, nous avons la vie. Donc souvenons-nous, nous ne ressentons pas toujours une guérison, aussi bien physique que spirituelle, ou même émotionnelle, parce que parfois nous sommes séparés de Dieu à cause d'une mauvaise attitude. C'est tout à fait évident. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, trop souvent, il est possible que nous résistons à la consolation de Dieu parce que nous n'acceptons pas, je dirais, les méthodes de sa consolation. Les méthodes que Dieu voudrait employer pour que nous soyons consolés, pour que nous soyons guéris. Notre approche de la consolation de Dieu, je dirais, est parfois trop négative. Et elle est parfois négative. On pense que, oui, peut-être bien, mais si, on ne sait pas, on verra bien. Bon, ça, c'est une approche un peu négative, c'est peut-être un peu un manque de foi, mais ce peut être comme un homme, comme cet homme qui assistait à l'essai du premier bateau à vapeur. Peut-être vous connaissez cette histoire, cet homme qui a assisté au premier à l'essai du premier bateau à vapeur. Alors, il sortit de la foule, toute la foule était là, voir ce bateau à vapeur qui allait peut-être fonctionner. Il sortit de la foule et il dit, « Oh, mais ils n'arriveront jamais à le faire avancer. » Et puis, petit à petit, la vapeur sort et le bateau avance. Malgré les preuves que ça marche, le sceptique ne pouvait pas briser ses propres limites, il était encore trop négatif. Alors, au lieu d'applaudir, comme faisaient tous les autres, voyant le bateau avancer, lui, il se dit, « Oh, mais ils n'arriveront jamais à l'arrêter. » Donc, c'est tout à fait négatif. Comment pouvons-nous résister à la consolation, à la compassion de Dieu? Voici quelques exemples sur la façon dont nous pouvons construire des barrières émotionnelles, donc, et même spirituelles, et qui peuvent nous empêcher de profiter du réconfort et de l'aide de Dieu. Alors, l'un des traits de la nature humaine est de rejeter parfois la faute sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait humain. Dieu veut que nous prenions nos responsabilités. On doit être responsable de nos actes. Si nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, eh bien, on le dit, on en prend la responsabilité. Il veut que nous recherchions sa guérison, il veut que nous recherchions sa volonté. Donc la nature humaine veut que nous regardions toujours nos problèmes, ça c'est la nature humaine, on regarde souvent, trop souvent les difficultés, les problèmes. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer. Lorsqu'on a un problème, bien entendu, il faut les voir en face pour les résoudre. Mais on ne peut pas s'apitoyer sur nos problèmes, alors que Dieu veut que nous regardions nos bénédictions, que nous apprenions, que nous apprécions même ce que nous avons et ne pas se plaindre parfois de ce que nous voudrions posséder, mais plutôt remercier Dieu de ce qu'il nous donne. Nous recherchons aussi la voie parfois la plus facile. Bon, ça c'est tout à fait humain. Nous recherchons ce qui est facile, mais Dieu veut aussi qu'à travers les épreuves de la vie, nous prenions chaque jour comme une occasion, je dirais, de vaincre, une occasion de développer un peu plus le caractère, notre propre caractère et de ce fait le caractère aussi du Christ. Parce que il est bien évident que les épreuves de la vie nous aident à cela. Nous aimons également lire dans la Bible ou assister à des miracles tout à fait surprenants, des miracles tout à fait spectaculaires. Philippe. Alors que souvent, Dieu intervient dans nos vies. Dieu intervient dans nos vies, non pas toujours par des miracles très, très, très spectaculaires, mais il intervient quand même dans des petites choses qui se passent. Dieu intervient dans nos vies seulement dans ce moment-là, il nous parle d'une autre façon que spectaculairement. Il nous parle, je dirais, d'une voix douce et dans des moments calmes pour nous. C'est ce qu'on appelle des moments calmes, nous ne sommes pas en pleine tempête. Rappelez-vous cette histoire du prophète Élie. Élie était un grand homme de Dieu, on se souvient d'Élie. Par lui, Dieu opérait d'incroyables miracles. La reine d'Israël, vous vous souvenez de Jézabel dans la Bible, émit une condamnation à mort sur Élie. Et vous savez que suite à la fatigue, au découragement, menèrent Élie dans la nature. Il a été caché dans une grotte. Il n'était plus tout seul, disait-il. Mais nous allons aller voir cette histoire dans 1 Rois, chapitre 19. 1 Rois, chapitre 19. À partir du verset 9. 1 Rois 19 à partir du verset 9. Alors ici, verset 9, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Mais que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Autrement dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent, je suis tout seul, et en plus, dit-il, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors d'ici, sors de ta grotte, sors de ta cachette, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Comme on dit, l'Éternel s'est fait connaître. Alors dans cette histoire, on voit la colère de Dieu pour Israël, qui a abandonné d'une part ses lois, et on voit la façon dont il parle ensuite à Élie, d'une façon beaucoup plus douce. L'Éternel dit, sors et tiens-toi donc dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. C'est lui qui l'a déclenché, mais il n'était pas à l'intérieur. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dieu venait de lui parler maintenant. Dieu faisait voir qu'il pouvait combattre Israël, qu'il pouvait punir Israël, mais que lui devait rester à sa place. Et c'est un miracle, mais il lui parle d'une façon douce, de façon que Élie comprenne cela. Donc Élie avait baissé les bras, il était découragé, il avait abandonné à cause du découragement, à cause de sa solitude. C'est pourquoi la réponse douce de Dieu fut de le réimpliquer, si je puis dire, dans les choses vivantes, dans les choses de la vie. Le vrai christianisme, à cette lumière, et plus que de croire dans les bonnes doctrines. Croire à une doctrine, c'est une chose. Pratiquer la doctrine, vivre de la doctrine, ça en est tout à fait une autre. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une doctrine, il s'agit de toute la loi divine, il s'agit de comprendre et de voir comment le Christ s'est comporté, les exemples qu'il nous a donnés, que ce soit par des paraboles et par tous les évangiles, bien sûr, mais de vivre. Et je suis bien d'accord avec vous que ce n'est pas uniquement avec notre nature humaine qu'on va y parvenir, mais avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de cette confiance, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin d'avoir en tête les enseignements qu'il y a dans le sermon sur la montagne. Nous devons aussi nous engager, comme Élie, comme les apôtres, comme les disciples, engagés à faire l'œuvre du royaume de Dieu sur cette terre, et de vivre chaque jour de ces enseignements, ne serait-ce que par notre attitude de chaque jour. Cette attitude, sans vouloir se gonfler, comme on dit, sans vouloir se surhausser, doit être évidemment différente de celle de ce pauvre monde qui ne connaît pas Dieu. Nous avons certainement des moments calmes aussi dans notre vie, des moments où Dieu nous parle d'une manière douce, comme il l'a fait à Élie, pour entendre cette voix douce qui est, ne serait-ce, bien sûr, la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Nous ne pouvons pas ignorer les enseignements bibliques, les doctrines qui y sont. Nous ne pouvons pas non plus ignorer ce jour de repos, de sabbat. Nous ne pouvons pas ignorer ce quatrième commandement. Chaque jour de sabbat, Dieu veut que nous cessions nos activités quotidiennes. Il veut que nous ayons un sabbat pour renouveler notre relation avec lui. Et Jésus-Christ écoute, nous voit tout au moins, et dans cette relation avec le Christ, chaque jour de sabbat, et chaque autre jour de la semaine aussi, mais surtout pour le sabbat, parce que c'est un jour que Dieu a mis à part, nous pouvons entendre la voix douce du Christ qui nous parle chaque jour de sabbat, c'est-à-dire dans les leçons que nous recevons par la parole de Dieu. Bon, ne nous égarons pas, retournons à Matthieu chapitre 5 au verset 5, ce sera le troisième point. Le troisième point du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 5, pour cette attitude suivante qui est heureux les humbles de cœur. Autrement dit, les débonnaires, comme certaines Bibles le traduisent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est l'humilité. L'humilité ne signifie pas manquer d'enthousiasme. L'humilité, c'est quelque chose, c'est une qualité du Christ. Ça ne signifie pas manquer d'enthousiasme et non pas non plus de servir de paillasson aux autres. L'humilité est une approche de la vie. Une approche de la vie qui consiste à mettre, à aider les autres, à mettre notre service aux besoins des autres. Donc l'opposé, dans le cas de la nature humaine évidemment, c'est le désir de stature, c'est le désir de pouvoir personnel. Ce serait tout à fait l'opposé. Et pourtant, dans notre société égoïste, le bonheur est défini par quoi exactement? On pourrait dire que le bonheur recherché par des hommes politiques, par bien d'autres personnes, pas forcément dans la politique, c'est se trouver soi, c'est se montrer soi, c'est arriver à une stature. Se trouver soi. D'abord, il y a un terme qu'on entend souvent parmi les gens qui ne savent pas trop où ils en sont. On a vu les concepts de la vie, tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde, bien les gens ont des doutes. Alors on dit parfois il ou elle se cherche. Elle se cherche ou il se cherche. Ça veut dire quoi se chercher? Je pense que celui qui cherche, s'il cherchait davantage à aider les autres, il se trouverait plus facilement. Bon, donc pour le christianisme, le bonheur est défini par le fait de réaliser que nous avons été créés à l'image du Christ. Donc un des exemples du Christ, d'une attitude de service, en tant que serviteur, le Christ, cette attitude peut se trouver dans Matthieu, dans bien d'autres passages évidemment. Prenons Matthieu chapitre 20. Matthieu le chapitre 20. Et verset 29. « Matthieu chapitre 20, à partir du verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Autrement dit, « Que puis-je faire pour vous aider ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc ici, Jésus nous montre l'exemple d'une attitude de service. Cette attitude est simplement une approche basée sur « Que puis-je faire pour vous aider ?»« Que puis-je faire pour vous ?» Puis on continue dans Matthieu 5, au verset 6, ce sera le quatrième point. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Avoir faim et soif de la justice, c'est autre qu'une seule phrase. Ça vient du fond du cœur, ça vient de quelque chose qu'on veut vraiment, la justice sur cette terre. Tout à l'heure, on regardait un petit commentaire, je fais une petite parenthèse, parce que vous l'avez vu aussi, cette lionne qui a trouvé un petit chevreau, je ne sais pas quoi, une petite antilope, et puis au lieu de le courir après et de la croquer, voilà qu'il la prend comme il le protège, et puis c'est tout à fait admiratif. Alors que d'un autre côté, à l'information qui était avant, on voit le cadavre d'une femme qui a été découpée. Bon, je vais reprendre ici à Matthieu chapitre 5, verset 6. Magnétophone s'est bloqué, on a oublié de tourner la cassette. C'est au sujet de ceux qui ont faim et soif, donc, de la justice. Et David dit dans le psaume 42, c'est au verset 2, David dit qu'il soupire après Dieu comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Donc ça, comme on le voit très bien que c'est un dilemme. Voici le dilemme, justement. Nous ne pourrons jamais être émotionnellement et spirituellement rassasiés tant que nous n'aurons pas ressenti une faim et une soif spirituelle. Toute notre approche des problèmes change quand nous avons un véritable désir pour la justice de Dieu. On s'aperçoit justement de cette faim et de cette soif de la vérité de Dieu depuis que nous n'avons pas nos grandes assemblées comme auparavant. Nous sommes un petit peu disséminés en Europe et ailleurs certainement, nous ne sommes pas les seuls, et nous sommes un petit peu plus seuls, si vous voulez, nous devons étudier davantage dans notre Bible. Nous recevons bien entendu des enseignements bibliques, mais nous ressentons davantage cette faim et cette soif spirituelle. Alors comment sommes-nous? Comment sommes-nous dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec le Christ? Sans enthousiasme de vivre pour le royaume, notre vie peut devenir une poursuite du matérialisme sans véritablement le vrai bonheur. Cette poursuite du matérialisme, on le sait, c'est un peu la poursuite du vent. Bon, on va continuer dans Matthieu chapitre 5 et on va prendre le verset 7, ce sera le cinquième point. Au verset 5, donc, Matthieu 5, verset 7, Jésus dit, « Heureux les miséricordieux. » Et là encore, ceci va à l'encontre de la réaction humaine normale, une réaction qui pardonne difficilement, qui se venge parfois, et même garde une rancune. Le pardon, c'est abandonner le besoin émotionnel de punir quelqu'un qui, par exemple, nous a traités de façon blessante. Souvenons-nous, l'exemple de l'apôtre Pierre réalisa que de pardonner 7 fois, c'était tout à fait remarquable, et d'après lui, c'était largement suffisant. Mais Jésus lui dit, de pardonner 77 fois 7 fois. Donc, pour avoir la paix d'esprit, nous devons apprendre à pardonner. Pour cela, demandons évidemment l'aide de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu, demandons-lui son aide. Si nous voulons un bonheur parfait, nous devons changer d'attitude. Le vrai bonheur, je dis bien le vrai bonheur tel défini par le Christ, passe aussi par une bonne entente entre les hommes. On arrive au sixième point de Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Matthieu chapitre 5 et le verset 8. Voilà. Heureux, au verset 8, heureux ceux qui ont leur cœur pur. Heureux ceux qui ont leur cœur pur. Qu'est-ce que c'est d'avoir le cœur pur? Une personne qui a un cœur pur est une personne du genre « ce que vous voyez, c'est ce que je possède ». Autrement dit, je ne cache rien. Dans une conversation, par exemple. Cette personne n'est pas guidée par des motivations personnelles, des motivations qui seraient cachées. Quand nous n'avons pas un cœur pur, nous agissons de façon acceptable envers les autres, envers ceux qui sont là, qui nous voient, et l'hypocrisie devient acceptable en tant que moyen pour arriver à nos fins. David s'exprime dans un passage, n'est pas la référence. David s'exprime en disant que ma bouche exprime les pensées de mon cœur. C'est un passage dans les psaumes, je crois. Donc, l'un des exemples bibliques les plus démonstratifs, les plus frappants, d'une personne qui est guidée par un cœur impur, se trouve dans Actes chapitre 5. Je peux en résumer rapidement, mais on va lire le passage. Le contexte, c'est qu'il s'agit de Barnabas. C'est un homme qui vendit un terrain et donna l'argent à l'église de Jérusalem. Donc ce simple acte de générosité avait été un grand encouragement pour tout le monde. Mais commençons au verset 1, dans Actes 5. Actes chapitre 5. Le verset 1, oui, acte 5, à partir du verset 1. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est l'attitude de la personne. Ce qu'il fait est bien, mais son attitude n'est pas bonne, parce qu'il cache quelque chose. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, pour lui bien sûr, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? Entre parenthèses, tu nous dis que c'est la somme complète alors que ce n'est pas vrai, voilà le problème. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Remarquez le verset 8 aussi, qui donne une petite explication supplémentaire au sujet de sa femme. Sa femme arrive et Pierre lui adresse la parole. Dis-moi. Autrement dit, la somme est là devant tout le monde. Il lui dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Vous savez, ce qui est arrivé à Ananias ici arrive également à sa femme. Oui, répondit-elle. Alors qu'ils n'ont pas tout à fait dit la vérité, bien entendu, ici. Barnabas avait donné donc, dans l'exemple, avec un cœur pur, et Ananias donna avec une attitude de manipulation, une attitude d'hypocrisie. Il voulait une part pour lui, en faisant croire qu'il donnait tout. C'est ça le problème. Il n'y avait pas de mal, il aurait dit, je suppose, à Pierre, bon voilà, j'en ai gardé tant pour moi, parce que j'en ai un petit peu besoin quand même, mais voilà la majorité de la somme, il n'y avait pas de problème. Mais il fait croire que tout est là, et c'est ça le mensonge, pour ainsi dire. Il fait croire qu'il donne tout. Donc son histoire nous rappelle les conséquences tragiques d'une bonne œuvre avec un esprit impur. C'est une bonne œuvre qu'il a faite, mais l'esprit n'accompagne pas cette bonne œuvre. Alors Matthieu chapitre 5 encore, et au verset 9, ce sera le septième point. Matthieu chapitre 5, verset 9, ici Jésus nous enseigne une autre attitude, une attitude que nous devons développer pour avoir toujours un bonheur parfait. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Eh oui, heureux ceux qui procurent la paix. Nous connaissons tous des gens qui créent des conflits, des gens qui semblent aimer créer des disputes. On dirait que ça les... Tant qu'ils n'ont pas créé un petit problème au milieu de la foule, ils ne pourraient pas vivre tranquillement. Et dans Romains chapitre 12, verset 18, l'apôtre Paul dit s'il est possible, je retiens toujours ce passage, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y a bien, s'il est possible, parce que même si vous voulez la paix, que votre interlocuteur ne la veut pas, qu'il veut la dispute, ce sera difficile. Mais s'il est possible que la dispute ne vienne pas de nous. C'est pourquoi cette phrase est aussi importante. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Certaines personnes, c'est vrai, sont des fauteurs de troubles. Quelle que soit la situation, elles cherchent toujours un petit conflit. Il y en a qui sont comme ça. Mais il y a deux erreurs, souvent faites au nom de la paix d'ailleurs. La première, c'est de vouloir faire la paix en forçant notre propre volonté aux autres. Ce problème, c'est le problème le plus commun dans le mariage, par exemple. C'est humain, tout à fait humain, sans doute, de croire que si nous pouvons arriver à faire penser tout le monde comme je pense, ça sera très bien. Ben non, ça ne va pas du tout. Ça, c'est le problème, de faire penser à tout le monde notre façon. En pensant comme ça, on pense qu'il y aura la paix. Et la deuxième erreur est de faire la paix par l'apaisement, c'est-à-dire on est d'accord sur tout, ça va bien, parce qu'on veut la paix. Ce n'est pas non plus un bon principe. Cette approche achète, pour ainsi dire, la paix en satisfaisant toutes les demandes. Cela ne marche pas non plus parce qu'on ne résout pas, ce n'est pas la façon de résoudre des problèmes en les ignorant et en devenant comme des paillassons, en quelque sorte, devant les autres. Il faut voir le problème qui se trouve entre les partenaires, entre les deux, de façon à en discuter. Procurer la paix est une attitude faite à la fois de pauvreté d'esprit et de, encore, comme on l'a dit tout à l'heure, que pouvons-nous faire pour aider, pour établir cette paix? Un pacificateur cherche des solutions paisibles, des solutions qui profiteront aux deux parties, à tous ceux d'ailleurs qui sont concernés. Le huitième point, Christ nous dit ici, dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Alors à partir du verset 10, je vais les lire ici un peu plus longuement, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors, cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent se porter volontaires pour être persécutés dans n'importe quel cas, pour chercher la persécution, autrement dit. Il n'est pas nécessaire de chercher la persécution. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Christ dit, dans d'autres passages, « Soyez prudents, comme des serpents. Nous ne cherchons pas la persécution, soyons prudents. » Il y en a qui ont voulu, peut-être dans le temps passé, non pas chercher la persécution, mais agir ou parler un peu trop, ça, je ne veux pas dire ouvertement, il faut toujours être couvert, mais faire attention tout au moins à ce que l'on dit. Donc une approche chrétienne de la vie signifie que nous devons être soumis à la volonté de Dieu, quel que soit bien sûr le prix. Le compromis est incompatible avec la volonté de Dieu. Remarquez que cette persécution dont il est question dans la Bible vient pour la justice de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Peut-être qu'un jour, voulant respecter les paroles de Dieu, nous risquerons d'être persécutés, mais ce n'est pas besoin de la chercher déjà. Donc il s'agit de, si on est persécuté, c'est faire pour la justice de Dieu, et non pas parce que nous aurions agi d'une manière insensée. Christ nous enseigne que le vrai bonheur vient d'un engagement envers Dieu. La persécution, soit peut, elle peut nous éloigner de Dieu, bien entendu d'une part, soit nous permet de grandir dans notre relation avec lui. Quelqu'un un jour, il y a plusieurs années de ça, c'était quelqu'un qui avait commis des petites choses qu'il n'aurait pas fallu, il était dans un endroit où il n'aurait pas dû être non plus, enfin il était dans cet endroit entre les barreaux, si on peut dire, parce qu'il avait commis des mauvaises choses. Et cette femme m'écrit, « Ah mais dans la Bible, il y a que heureux si vous êtes persécuté. » Il n'avait pas compris, il avait été persécuté, lui, parce qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et évidemment, il se trouvait derrière les barreaux à ce moment-là. Ce n'est pas des actes comme ça qu'il nous faut faire. Alors, Luc raconte, lui, dans les actes, dans les actes chapitre 5, il dit que les apôtres étaient persécutés, comme on vient de le voir, étaient battus et jetés en prison à cause de leur foi. On va lire ce passage dans Actes chapitre 5, verset 40. Actes, le chapitre 5. Et le verset 40. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Marquez. Pourquoi ils étaient battus de verges? Parce qu'ils parlaient du Christ, parce qu'ils enseignaient les paroles de Dieu. Et ils les relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ici, on voit que les apôtres étaient joyeux, justement, pour une bonne cause. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Christ. Ça, c'est l'approche de la vie. L'approche de la vie enseignée par le Christ lui-même. Donc, pour résumer tout ce que nous venons de voir, ceux qui souhaitent participer, ceux qui souhaitent vraiment être présents lors du retour du Christ, qui veulent participer au royaume de Dieu, nous devons tous développer l'attitude qui mène au bonheur parfait. Ce bonheur qui peut être le nôtre en vivant de ce serment sur la montagne. Nous devons apprendre à être pauvres en esprit, au lieu d'être remplis d'orgueil ou de propre détermination, trouver du réconfort en Dieu, comme l'a fait Élie et bien d'autres, au lieu de chercher le bonheur à tout prix à la façon humaine, être humble, au lieu de toujours chercher à être les premiers, avoir aussi faim et soif de la justice, au lieu d'être spirituellement trop complaisant et matérialiste plutôt, être compatissant au lieu de ne pas pardonner, être pur de cœur comme nous l'avons vu tout à l'heure, au lieu d'être guidé par des motivations égoïstes. Nous devons être aussi des pacificateurs au lieu d'être des fauteurs de troubles, tenir ferme dans la foi face à la persécution. Et ce qu'il faut remarquer, que je laisse un petit peu, non pas au hasard, à l'écart tout à l'heure, que dans toutes ces attitudes, il y a une récompense. Une récompense est promise à chacune de ces attitudes, récompense promise de la part de Dieu. Donc, pour terminer, retournons à Matthieu, que nous venons de voir, et relisons les paroles du Christ dans Matthieu 5 à partir du verset 3. En lisant les promesses qui concernent ces choses. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ceci nous rappelle un passage dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Où nous verrons Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, à la suite de ces enseignements, nous pouvons tous nous poser une question, et la question qui revient à l'esprit, il y a une brochure là-dessus, c'est au fait, pourquoi sommes-nous nés finalement? Pourquoi sommes-nous nés? Il y a une grande différence entre saisir le futur que Dieu veut pour nous, saisir le futur que veut et simplement continuer à vivre comme nous vivons. Et il y a ces deux aspects. Accepter ces promesses que Dieu veut pour son peuple, ou alors continuer à vivre, de vivre comme nous le faisions par le passé. Ah, bien sûr, là encore, ayant ce mode de conduite que Dieu nous donne dans le sermon sur la montagne, tout cela dépend de nous. La grande question, c'est cela. Que faisons-nous aujourd'hui pour persévérer, pour croître, pour nous rapprocher de Dieu? Que Dieu donc nous aide, que Dieu nous aide et fasse croître en nous toutes ces qualités. C'est la seule façon d'obtenir la paix que les hommes cherchent sur la terre.